voix nue. Toute cette semaine, hommage à Claude Jean-Philippe, récemment disparu. En 2012, il rencontrait Carole Desbarra. Ce soir, Casablanca, Paris.
Bonsoir. Claude Jean-Philippe est un cinéphile avéré. Il incarne pour beaucoup l'esprit du ciné-club, de cette transmission du goût du cinéma à travers le fait de montrer des films à la télé, dans les salles de cinéma ou à travers ses propres réalisations ou écrits. Aujourd'hui, nous allons le suivre à Paris, où, pour pasticher le titre d'un film de Capra qu'il aime beaucoup, Casablanca Paris. Bonsoir Claude Jean-Philippe. Donc vous arrivez à Paris, et le jour même, vous allez à la Cinémathèque française.
J'étais français, mais je n'avais jamais vécu en métropole jusqu'à l'âge de 54, j'ai 21 ans. Ça a été la découverte de la France. Enfin, ça a été, j'appartenais à un pays que je n'avais jamais vu. Mais ça a été vite fait, puisque ça a été le paquebot, puis le train Marseille-Paris. Puis, la première chose que je fais, effectivement, c'est fatiguer d'aller à la Cinémathèque. Je sais pas ce qu'il y avait. Oui, je sais ce qu'il y avait comme film. C'était un film muet de... C'était soit Le Chapeau de paille d'Italie, soit Les deux timides. C'était un René Clair muet, donc voilà. Et je découvre cette espèce d'extraordinaire placard qui était la Cinémathèque. Ça, je ne l'avais pas connue.
Non, c'était celle de l'avenue de Messine.
C'était l'avenue de Messine, qui était une toute petite salle de projection, toute noire, avec un monsieur qui s'appelait Henri Langlois, qui était d'ailleurs, autant que je me souvienne, il était là tout le temps, ou presque... Et cette année 54-55, qui a été l'année où j'ai préparé le concours d'entrée à l'IDEC, c'était pas la FEMIS à l'époque, mais c'était l'ancêtre de la FEMIS, et qui se préparait chez Henri Hagel dans une classe particulière, une sorte d'hypocagne spécialisée sur le cinéma, enfin préparant le concours d'entrée à l'IDEC au lycée Voltaire. Donc il y avait d'un côté le lycée Voltaire, et les cours de préparation du concours, et de l'autre, une folie cinéphilique dont je ne pense pas qu'il puisse se trouver d'équivalent aujourd'hui, et pas seulement pour nous, préparant l'IDEC. C'était le moment des cahiers à couverture jaune. On les connaissait pas par leur nom, mais on croisait toujours les mêmes têtes, qui étaient les têtes de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, avec qui j'ai tout de suite échangé parce que c'était le plus familier. Avec Chabrol, on pouvait parler, les autres étaient réfrigérants, d'une part par le respect qu'ils inspiraient, d'autre part c'était des gens qui se vouvoyaient et qui n'évoquaient jamais leur vie privée. Peut-être Truffaut, peut-être Chabrol, mais les autres, Rivette, bon. Mais surtout le cinéma, la Cinémathèque d'un côté, puis les rares salles d'art et d'essai de l'époque, la Pagode, le Studio Bertrand, le Parnasse avec les soirées du mardi qui étaient des ciné qua non. Enfin, tout le monde se retrouvait aux soirées du Parnasse le mardi. Et je me souviens de journées où j'avais vu 3-4 films dans la journée, trois souvent, on entrait d'une salle pour... On sortait d'une salle pour entrer dans une autre. On voyait les trois films de la Cinémathèque parce que Langlois en programmait trois, d'ailleurs volontairement trois différents qui se répondaient les uns aux autres par certains côtés. Enfin, sa programmation était très savante d'une certaine façon. Et puis certains soirs, c'était la folie pure parce que il passait un film qu'il était le seul à pouvoir nous montrer, qui était Le Kid de Charlie Chaplin. Et je me rappellerai toujours, on a vu une Messine ce soir, ce jour-là, Langlois avait décidé que on repasserait le film tant qu'il y aurait du monde pour le voir. Et première séance, deuxième séance, troisième séance, quatrième séance, et voilà. Et pendant ce temps, les gens attendaient la séance suivante. On était recrues de fatigue, enfin autant que je me souvienne, parce qu'on était étudiants malgré tout par ailleurs, donc. La vie n'était pas facile avec les courses au restaurant universitaire, les courses partout, les courses pour rejoindre... Moi, j'habitais Saint-Denis. Pour rejoindre la petite chambre où j'habitais avec un copain, etc. Donc, j'étais recrue de fatigue et je me souviens avoir vu délibérément le Faust de Murnau debout pour ne pas m'endormir, tellement j'étais fatigué. D'ailleurs, j'ai des visions. Rappelez, dans le Faust, au début, il y a une espèce d'éblouissement de lumière. Compte tenu de mon état, ça devenait encore plus onirique, enfin, bien entendu.
Oui, Romère a des très belles pages sur le blanc dans le Faust de Murnau, effectivement, le côté très éclatant. Et du coup, vous l'avez vécu comme une hypnose, enfin.
Oui.
Tout à fait. Mais c'était donc une sorte de, comment dire, de cours complémentaire. Enfin, je veux dire, vous aviez l'IDEC d'un côté, vous aviez la formation par vous-même sur le choix de film
Dans l'année de préparation, puis ensuite à l'IDEC, ça a continué. Et dans l'année de préparation, il y avait des personnages assez étonnants, dont deux en particulier, qui étaient Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, qui sont évidemment connus aujourd'hui pour leurs films, mais qui à l'époque étaient comme nous, des étudiants en cinéma, préparant le concours d'entrée à l'IDEC. Et le premier abord de Straub a été un peu rude, autant que je me souvienne, mais très rapidement, on est devenus amis, bien sûr, mais il avait une influence incroyable sur le petit groupe qui s'était constitué autour de lui, d'ailleurs un peu contre son gré, il n'avait aucune espèce d'envie de nous influencer. Il était plus avancé que nous en cinéphilie, il avait vu des films que nous n'avions pas vus. Je me souviendrai toujours de ça devait être soit Le Plaisir, soit La Ronde, quand il m'avait amené voir Ophuls. Et moi, évidemment, à l'époque, Ophuls passait pour un teuton, par la critique de l'époque, les lourdeurs germaniques de Max Ophuls. Et Straub m'avait dit « Non, pas du tout, tu vas voir. » Et j'ai vu. Et bon, évidemment, c'est à travers Jean-Marie que je me suis initié à des cinéastes que je continue à révérer, comme Roberto Rossellini, Jean Renoir, Hitchcock, bien entendu, dont il était un grand spécialiste déjà, Howard Hawks, Lang, Ophuls, Bresson, dont il était un très grand admirateur. Je me rappellerai toujours Daniel, dans le cinéma où passait Un condamné à mort s'est échappé. Et bon, elle sortait du cinéma, moi j'y entrais. Et j'entends sa phrase simplement, bah, c'est des phrases comme ça. Elle m'a dit, la musique c'est du Mozart. C'est tout. Je me souviens de cette jeune femme qui était extraordinaire, qui rendait Agel fou de jalousie, parce qu'elle avait lu plus que lui. Lui qui était hyper cultivé, professeur de littérature, qui savait tout. Elle en savait un peu plus, à son âge. Ce qui était extraordinaire. Et lui, Jean-Marie, j'ai essayé d'analyser par la suite ce qu'il avait comme particularité. Il ne tenait pas de discours, il n'avait pas du tout de théorie. D'ailleurs, si vous avez lu des papiers de lui, ils sont d'une brièveté, d'une concision.
Il est très concis.
Oui, c'est une des rares personnes que j'ai connues qui était entièrement de bonne foi. Ce qui est rarissime, parce que c'est là que j'ai appris à distinguer la sincérité de la bonne foi, parce que la sincérité, mon Dieu, nous sommes tous sincères, y compris dans les histoires que nous nous racontons, à tous égards, mais la bonne foi c'est rare, c'est extraordinairement rare. Et il avait, de ce fait, quand il nous disait quelque chose sur un film ou sur un cinéaste, ça avait une très 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 grande force. Et c'est à travers lui que j'ai pris le... Bon, en même temps, il se trouve qu'il était très près des gens des cahiers. Enfin, il, sans avoir écrit dans les cahiers à couverture jaune, il était un de leurs amis autant qu'on puisse être dans l'amitié avec... etc. Donc, et en même temps, il nous transmettait un peu le climat au cahier, ce qui s'y passait... Enfin, avec en même temps des naïvetés d'époque. Le jour où il est revenu en disant Hitchcock a avoué, bon, c'était le fameux interview d'Hitchcock où Rivette et Truffaut avaient réussi à lui faire avouer qu'il avait des ambitions autres que bon, et c'était pas
film
oui, donc, oui, En réalité, quand j'ai eu Hitchcock en face de moi et que je lui ai posé la question, il m'a fait la meilleure réponse du monde. Je lui ai dit, mais vous savez, en France, il y a ceux qui disent que vous êtes un merveilleux conteur, fabricant de suspense, mais rien de plus. Et il y a ceux qui disent qu'il y a des ambitions beaucoup plus profondes, qui vont même jusqu'à la métaphysique, en tout cas la morale. Et Hitchcock me répond, quand je me regarde dans une glace, je ne vois pas deux hommes différents. Ce qui est merveilleux, quand même.
Tout à fait. Va bien.
Je n'ai eu qu'une fois en face de moi, celui-là. Les autres, bon, non, c'est après.
Si on anticipe de quelques années les films de Jean-Marie Straub, qu'en pensez-vous? Parce que quand vous lis, quand je vous écoute, quand je sais comment vous aimez Renoir, Rossellini, une humanité.
Non, mais justement, entre les goûts de Jean-Marie, que je crois partager. Complètement, enfin, il aime, je crois qu'il continue à aimer les mêmes cinéastes que moi. Mais ces films me. C'est pas que je les aime pas, c'est pas que je les trouve mauvais. C'est tout le contraire, même, d'une certaine façon. Mais je n'y entre pas. Enfin, c'est une philosophie que je me suis donnée. Bon, il y a des films, évidemment, qui me hérissent. Je préfère pas donner de nom. De titres ou de cinéastes qui me hérissent, ça c'est une chose. Il y a les films que j'aime, bon ça on va en parler, mais il y a les univers dans lesquels je ne peux pas entrer. Je ne peux pas entrer dans l'univers de Tarkovsky. Bon, voilà. C'est comme ça. Je suis pas doué pour ça. Et je suis pas doué pour entrer dans les films de Jean-Marie. Ça, c'est... D'ailleurs, je lui ai dit, il fallait que je l'avoue un jour... bon, je sais pas comment il l'a pris, mais mon amitié reste évidemment entière, bien entendu, mais ces films, j'avoue que me posent un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Mais cette bonne foi dont vous parlez, est-ce que c'est cela qui fait que le jour du concours de l'IDEC, après avoir préparé un an l'IDEC, lorsque Jean-Marie et Daniel Huillet se trouvent devant Manège d'Yves Allégret, décident que non? Ils ne vont pas rentrer dans une école.
Non, trompé dans La Nuit Bienfaisante en racontant cette histoire.
Là, je vous suivais, vous
parce qu'on m'a corrigé par la suite. Il y a un ami qui m'a corrigé par la suite. Je sais plus. En tout cas, il y en a un des deux qui est parti. Je sais pas lequel. D'accord. Qui ne pouvait pas, bon, qui a vu le film et qui est parti, dégoûté. Parce que, à l'époque, c'était, bon, il faut se replacer dans cet univers-là, l'univers de, vous pouvez pas imaginer à quel point on était stupide. Enfin, ça s'est vérifié même avec Truffaut, qui un jour a pris un type en autostop, et la conversation vient malheureusement sur Wells. Le type dit qu'il aime pas Wells, et Truffaut le fait sortir, ce qui est quand même d'une cruauté et du bon. Mais ça vous indique notre état d'esprit quand même, et qui n'est évidemment plus du tout le mien aujourd'hui, d'aucune façon.
Mais effectivement, cet état d'esprit, il était très coupant, très dogmatique, mais aussi très passionné, l'un étant le corollaire de l'autre.
Je crois que les cahiers à couverture jaune ont établi le goût pour 40 ans, pour 50 ans. Je m'en suis rendu compte quand j'ai demandé à 76 compétences de tous ordres, journalistes, critiques, historiens, professeurs, de faire la liste de des 100 meilleurs films selon eux. Finalement, si vous regardez cette liste, elle est tout à fait cohérente avec la couverture jaune. Je crois qu'ils ont... enfin, si Hitchcock est aujourd'hui une icône, c'est aussi en partie à cause d'eux. Même les Américains ont fini par suivre. Ils ont fini par dire à un Américain que Waddock, c'était un artiste, un très grand artiste. Bon, dans les années 50-60, ça leur paraissait hallucinant. Aujourd'hui, ils sont nombreux à reconnaître... que Hawks est un très grand cinéaste, en tout cas.
Mais vous auriez pu choisir positif.
Oui, c'était mais c'était pas mon genre. C'était pas mon genre. Politiquement, oui, mais...
C'est pour ça que je dis ça.
Non, mais...
Disons que préciser un peu que
non,
positif était je, plus
j'ai
sur
senti
le...
Tout, j'ai senti tout de suite que l'histoire était du côté des cahiers, que bon, certains articles de Romer m'ont donné des boutons, hein, quand il a écrit, par exemple, que que Louis Buñuel était... Enfin, j'entends, je me souviens de cette phrase, « Louis Buñuel est un plaisantin ». J'étais fou de rage. Attention, tout le monde s'est trompé. Alors là, maintenant, j'en suis absolument certain, tout le monde s'est trompé. Cocteau se trompe absolument quand il demande à Buñuel précisément pourquoi il a fait elle. Cocteau ne comprend strictement rien à elle, qui est un des plus beaux films de Buñuel. Wells voue un culte à Vittorio De Sica. Truffaut se trompe complètement lorsqu'il voit le premier film de Satyajit Ray et qu'il a l'air de le prendre vraiment de très très haut et de très loin. D'ailleurs, les cahiers dans leur ensemble ont mis du temps à découvrir la royauté de John Ford. Enfin, ils ont mis du temps. Hein. J'avais écrit un article sur un western de Ford pour les cahiers et on en avait parlé un peu avec Romer et ils étaient en train de réviser complètement leur jugement parce que c'était Hitchcockien, Rossellini d'un côté, Renoir de l'autre, et puis les jeunes cinéastes américains de l'époque, Nicolas Ray, Aldrich, etc. Et avec une formule qui était la politique des auteurs, qui était intenable. Quand au nom de la politique des auteurs, c'est-à-dire au nom de la faillibilité de l'auteur, Truffaut défend Ali Baba de Becker, il se trompe, hein, mais totalement. D'ailleurs, on pourrait faire une liste de films complètement ratés de très grands cinéastes. Si on ne connaissait d'Hitchcock que Monsieur et Madame Smith, si on ne connaissait de Renoir que Nana, même Nana, hein, si on ne connaissait de Rossellini que je ne vais pas citer les titres des Rossellini, ni fait ni affaire, bien entendu. Il n'y a pas d'infaillibilité des cinéastes. Il y a des cinéastes qui, à un moment donné, ont été les vrais grands, quoi. Et ça, de ce point de vue-là, ils ne se sont pas trompés.
Mais ce qui est très frappant, c'est que nous sommes en 54, 55, 56. Vous faites vos études à l'IDEC, mais en fait, vous ne parlez pas de l'IDEC. C'est ailleurs que ça se passe.
Oui, ça, faut dire que l'IDEC, à l'époque, l'enseignement de l'IDEC était ni fait ni à faire. C'était une maison de retraite pour anciens techniciens du cinéma, donc avec des formules du genre que messieurs, ils disaient pas messieurs, ils nous disaient quand vous serez dans la profession, enfin, la profession avec un grand P, non, c'était ridicule et absurde, et on avait à tout compte fait le droit de faire un petit bout de film de 16 mm la première année, et un petit bout de 35 la deuxième année, auquel j'ai renoncé d'ailleurs, parce que ça me paraissait ridicule et que j'ai donné ma pellicule et mon jour de tournage à un copain. Donc, non, c'est pas à l'IDEC que ça se passait pour moi. D'ailleurs, enfin, j'avais fait l'IDEC avec l'idée non pas de devenir réalisateur, mais l'idée de devenir prof de cinéma. Enfin, à l'époque, ce qui paraissait, ça n'existait pas, un prof de cinéma, ni au lycée, ni à l'université, ni nulle part. Je sais pas pourquoi, j'avais le pressentiment que ça allait exister un jour.
Oui, vous avez même fait des ateliers, je crois, avec des enfants. Vous avez même été précurseur de ce qu'on appelle le jeune public. Mais c'est vrai que c'est très curieux de voir que vous avez cette passion, que vous passez par les fourches caudines d'une école qui prépare des professionnels, on va dire au sens le plus noble du terme, en tout cas des gens qui sont des collaborateurs de création. Un jour, il faudra parler de pourquoi on ne parle que des réalisateurs et pourquoi on ne parle jamais des gens du son, de l'image, comme créateur. Mais en tout cas, c'est vrai que vous arrivez avec l'idée que vous n'êtes pas un réalisateur.
Il y a une formule de Satie, oui, c'est bien d'Éric Satie, que je trouve merveilleuse. C'est pour la modestie, je ne crains personne. Je me disais que j'étais pas né pour ça, que j'avais pas les dons, que j'avais pas les qualités, que j'avais déjà l'idée que je pouvais transmettre des admirations, que je pouvais... Bon, ou des analyses, mais j'étais déjà dans l'esprit de celui qui allait se manifester, comme vous savez. Donc, je suis devenu réalisateur, d'ailleurs, par hasard. C'est-à-dire, après avoir été très longtemps assistant réalisateur, ce qui n'est pas du tout de la même chose, à la télévision, où j'étais assistant de Jean-Pierre Chartier, il se trouve qu'un jour, je me suis retrouvé au service cinéma de la télévision, parce que, compte tenu de mon pédigré... Bien entendu, il m'avait recruté au service cinéma de la télé, pour visionner et choisir des films, et choisir des films pour passer à l'antenne, pas des films de ciné-club. Et un jour, dans une réunion, il se trouve que j'avais des films policiers à revendre dans mon stock, et que j'ai suggéré au directeur de l'époque, je ne sais plus d'ailleurs quel était son nom, je me rappelle de quelqu'un qui était à côté de lui, qui s'appelait Monsieur An. Je lance l'idée d'une soirée policière le jeudi, qui pourrait être suivie d'un documentaire sur de vraies affaires policières. C'est-à-dire d'un côté la fiction, de l'autre interviewer des anciens policiers, des anciens bagnards, des anciens avocats, etc., etc. Bon, pour faire une sorte de dossier d'écran, mais sur les faits divers. Et je lance cette idée, mais sans penser une seconde, ce serait moi qui la réaliserais. Et soudain, le monsieur en question me dit, mais Naon, parce que je m'appelle Naon, c'est mon vrai nom, vous avez les critères pour être réalisateur, non? Oui, effectivement, j'avais fait tant d'années d'assistanat, j'avais l'IDEC, etc. Vous pouvez être réalisateur, hein. Je dis, oui, bien sûr, mais enfin, bon, pourquoi vous ne le feriez pas vous-même? Et il m'a bombardé réalisateur. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première émission comme réalisateur, c'est-à-dire extraordinairement maladroite d'ailleurs, sur José Giovanni, qui était le bon client pour ça, parce que il avait été un tolard. Et ça a suivi. Ça a suivi de telle sorte que pendant des années et des années et des années, j'ai pas eu un jour de chômage comme réalisateur. J'ai toujours soit réalisé des portraits, des dossiers souvenirs, dans d'autres cas, ça s'est appelé une légende d'une vie. Et puis, je rencontre Raoul Girardet, qui est à l'opposé de moi politiquement, mais qui est devenu un très très grand ami, et avec qui je réalise une émission. C'est lui qui a été l'auteur. J'en ai été le réalisateur. Qui s'appelle l'album de famille des Français. Et puis, jusqu'à l'encyclopédie audiovisuelle du cinéma, qui est un gigantesque film de montage, 39 films de 26 minutes, voilà, donc très longue carrière, et puis ensuite la chanson, les soirées sur Piaf, les soirées sur Brel, etc., etc. Donc voilà, en même temps, je n'arrêtais pas de me dire, c'est bien que tu tâtes de la chose, parce que finalement, ceux qui savent le mieux parler de la peinture, ce sont les peintres. Ceux qui savent le mieux parler du cinéma, ce sont les cinéastes, d'où le cinéma des cinéastes. Donc, il vaut mieux avoir tourné, il vaut mieux avoir été dans une salle de montage, il vaut mieux avoir pratiqué pour mieux comprendre ce qui se passe quand tu regardes un film de Stanley Donen ou un film de Kurosawa. Enfin, voilà, pour prendre des exemples très opposés.
Donc, le plaisir n'est pas du tout le même. Le plaisir de réaliser pour la télévision, vous avez certainement éprouvé du plaisir, n'est pas du tout le même que celui de transmettre et de parler.
C'est un plaisir, parce que en fait, j'ai jamais cessé de... Comme dit le président, j'aime les gens. C'est vrai, l'idée de faire des portraits était une idée merveilleuse, se trouver devant quelqu'un qu'on connaît pas. Je me suis trouvé d'ailleurs l'idée de faire des portraits, et quelquefois sans tenir compte de ce qu'ils sont. Je me souviens de ma première rencontre avec Zaouki, le peintre. C'est de lui dire, je connais rien à la peinture, monsieur. Mais je trouve que vous avez eu une existence extraordinaire, c'est vrai. Une existence de jeune Chinois, émigré en France, rencontrant Michaud, etc., etc. Bon, ça l'a fait rire. Et de ce fait, on a eu d'excellents rapports. Mais d'excellents rapports, enfin vraiment. C'était le destin particulier de certaines personnes qui m'intéressaient. Je passais de Alphonse Boudard, bon, qui est ce qu'il est, qui était un personnage absolument merveilleux par ailleurs, à une dame de Belleville qui était parfaitement anonyme, Madame Picard, dont je suis tombé amoureux alors qu'elle avait 88 ans, qui était la fiction personnifiée, parce que la façon qu'elle avait de raconter n'importe quoi, des choses absolument insignifiantes, devenait plus passionnante que du théâtre ou du roman, qui racontait Belleville comme personne ne l'a jamais raconté, à mon avis. Et il y avait aussi le professeur Debré, qui racontait sa vie, qui racontait ses premières années avec Peggy, enfin bon, donc... ce qui était passionnant, c'était le moment où il livrait quelque chose d'eux-mêmes, de très très profond. C'est arrivé avec Lucien Bonnard d'une manière tout à fait extraordinaire. J'en avais un peu marre de son numéro, indochinois, etc., etc. Un jour, je lui ai dit, écoutez, Lucien, vous êtes assis, là, vous êtes trop confortable, mettez-vous debout et racontez-moi ce que vous ne racontez jamais, à savoir son adolescence parisienne, très, très lointaine. Et brusquement, il s'est avéré qu'il est devenu extraordinairement émouvant, modeste, et que du reste, ça lui a donné l'idée de faire d'autres livres dans cet esprit-là, racontant cette période d'avant le grand reportage, d'avant l'Indochine, d'avant tout ça. C'était pas du tout une satisfaction de réalisateur, c'était une satisfaction, je sais pas moi, de découvrir soudain une personne, quoi. Et sa noblesse, parce que finalement, quand je fais le compte des gens que j'ai aimé filmer, je découvrais que je les avais, enfin parce que j'étais pas tout seul, Monique Lefebvre, qui était la productrice de l'émission au même titre que moi, il y avait quelque chose qui nous attirait chez certaines personnes et qui était un certain accent de noblesse, quoi, de noblesse humaine. C'était voilà.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claude-Jean Philippe avec Carole Desbara, enregistrée en 2012. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Gilles Davidas, Thomas Duterre, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.